Passionné par mon métier, j'ai créé le blog The Office Unicorn pour révéler le pouvoir magique des assistantes, ces licornes invisibles du bureau. À travers ce podcast, je souhaite mettre en lumière la communauté des assistantes à travers des témoignages, interviews et bonnes pratiques. Rejoignez la communauté The Office Unicorn sur Facebook, Twitter, LinkedIn. The Office Unicorn, le podcast des assistantes digitales et créatives.
Bonjour à tous, c'est Aurélie du blog The Office Unicorn. Je suis ravie aujourd'hui d'être chez Nina, qui est assistante virtuelle, qui m'accueille chez elle, puisque c'est son bureau. Donc, je laisse Nina se présenter. Parle-nous un peu de toi, ton parcours. Raconte-nous un petit peu comment tu as découvert le métier d'assistante de direction et ce qui t'a décidé à exercer ce métier, ce nouveau métier d'assistante virtuelle.
Merci Aurélie, bonjour à tous. Tout d'abord, je voulais te remercier de m'avoir proposé ce podcast en format interview et de pouvoir parler du plus beau métier du monde, qui est le métier des assistantes en administration, quel que soit le titre qu'elle porte aujourd'hui, on est tous et toutes des experts administratifs. Donc je m'appelle Nina Difali, j'ai 39 ans encore pendant 4 jours. Nous sommes en effet chez moi, oui. Au Buttes-Chaumont à Paris. C'est aussi l'endroit où je travaille. Ma table de manger est très souvent mon bureau, même si j'ai un petit bureau derrière moi qui est mieux organisé avec un plus grand écran. Donc de formation, j'ai fait un doc de langue étrangère appliquée en anglais et en espagnol. J'ai ensuite complété par une maîtrise de communication des entreprises parce que j'étais très intéressée par l'écrit, les métiers de journaliste ou de rédaction en entreprise. J'ai travaillé en tant qu'assistante de communication, attachée de presse junior, chargée de relations presse et public pendant 7 ans, de 17 à 25-26 ans. J'ai atteint le Graal à 26 ans chez Publicis, où j'étais chargée de relations presse et public et office manager pour le nouveau bureau de Manning, Selvage & Lee. C'était donc une entreprise rachetée par Publicis à cette époque. Et le managing director, le directeur général, Philippe Chérel, était venu me chercher à l'époque pour pouvoir l'accompagner sur l'ouverture de ce bureau. Ça a été une belle expérience, mais on est tombés d'accord tous les deux que c'est vraiment pas un métier pour moi. Je suis pas assez combative, j'ai pas cette âme de commercial pour vendre des campagnes de communication. Donc j'ai fait un bilan de compétences à 26 ans et il est apparu que j'étais parfaite pour des postes d'assistante de direction de haut niveau. Donc on a tourné mon CV et ma carrière vers ce type de poste et très rapidement j'ai eu mon premier poste en maison de disques chez EMI Records, où j'ai été l'assistante dans un premier temps assez sur une courte période du directeur commercial, puis ensuite de la présidente. Ça a été une merveilleuse expérience et c'est à partir de là que je me suis vraiment rendu compte que ce métier n'était pas qu'un métier. À titre personnel, c'était aussi une vocation. Ça représentait toutes les valeurs que je partage et qui me définissent, telles que le service, accompagner des gens passionnés dans leur quotidien, aussi bien personnel que professionnel. Et puis surtout, je mettais à l'œuvre mes compétences, qu'elles soient linguistiques, puisque je travaille principalement en anglais, et je travaille toujours principalement en anglais, ou mes compétences d'écriture, de rédaction, de créativité, de mise en place, d'organisation.
C'est intéressant ce côté-là, parce que souvent, pour les assistantes, on nous renvoie pas l'image de personnes créatives.
Non, effectivement, alors que je pense que si on n'a pas cette créativité, on ne peut pas faire ce métier. Je ne connais aucune assistante aujourd'hui qui ne pourrait pas créer en l'espace d'une semaine, d'une journée ou d'une heure une demande, un besoin, enfin une réponse à une demande ou à un besoin extérieur. Alors peut-être que les assistantes d'aujourd'hui ne sont pas capables de nommer cette action sous le terme de créativité, parce que c'est tellement naturel, c'est quelque chose qui se fait spontanément, mais nous faisons partie d'une industrie professionnelle où nous sommes tous et toutes créatifs, sinon ça fonctionnerait pas.
Alors si tu pouvais justement, là tu as fait part de ton parcours, donc il y a eu tout un cheminement, et je pense qu'on a tous un chemin de vie professionnelle, et justement, qu'est-ce qui t'a amené à devenir assistante virtuelle et à devenir une mini-entrepreneur, entre parenthèses?
Même une entrepreneur, tout court, en grand, en gras et en doré. Allez, j'adore le doré, pas en rouge, en doré.
Un peu de paillettes aussi.
Un peu de paillettes aussi, comme mon pull aujourd'hui.
Ouais, voilà.
C'est tout simplement ma vie personnelle et qui m'a ramenée vers le chemin de la citana virtuelle. J'ai vécu un événement de santé personnelle très dur il y a 4 ans. Je ne souhaite pas en parler de façon directe et transparente parce que c'est quelque chose de personnel. Mais cet événement-là m'a rappelé à l'ordre sur qui je suis, ce que je veux. Je dirais pas que j'ai vécu une crise existentielle, mais quand on est confronté à la mort, on a forcément cette crise existentielle qui s'impose à nous et qui nous pousse à le redéfinir notre quotidien. De quoi j'avais envie. Et surtout, je me suis retrouvée en arrêt de travail du jour au lendemain pour parler plus de façon plus pragmatique et concrète, et je me suis ennuyée comme un rat mort. Mais vraiment, c'était terrible. Et donc, j'ai aidé une de mes meilleures amies qui, elle, était devenue entrepreneur aussi, qui s'était lancée à son compte et qui est dans un tout autre secteur, et elle était complètement débordée par l'organisation interne de son entreprise et son quotidien aussi avec ses clients. Et je lui ai tout simplement proposé de l'aider parce que je m'ennuyais de façon bénévole, forcément, parce que j'étais en arrêt de travail. Et donc je me suis retrouvée avec un nouveau quotidien professionnel pendant mon arrêt de travail, puisqu'elle travaillait dans un espace de coworking à Paris. Et j'ai rencontré son équipe, j'ai rencontré ses coworkers qui sont aussi des autres entrepreneurs. Et au bout de quelques mois, on a commencé à me dire, mais est-ce que tu le fais de façon professionnelle? Est-ce que tu fais pour ton ami? Est-ce que tu pourrais le faire pour nous? Mon ami qui commençait aussi à planter les graines de l'entrepreneuriat dans mon esprit en me disant mais c'est exactement ce qu'il te faut. Et moi je regardais ça de façon complètement hébétée. Je disais, mais de quoi me parle-t-on? Enfin non, je suis maman célibataire divorcée, j'ai une petite fille de 5 ans, je n'ai certainement pas envie de me lancer dans quelque chose où l'insécurité financière est permanente. J'ai besoin au contraire de sécurité, et j'étais à un poste où je gagnais très bien ma vie, j'avais de très beaux avantages. Ça me traversait même pas l'esprit. En plus, j'étais dans une situation de santé qui était terrible, donc
oui, c'était pas le bon timing.
Non, pas du tout.
Mais quand même, ça avait fait un petit tilt dans la tête. Tu t'es dit, bon, pourquoi pas one day, quoi. Un jour ou non, même pas. C'est pas possible.
Alors, au début, je pense que j'entendais ça avec beaucoup de distance. Je l'entendais, je le prenais comme des compliments. C'était une façon de me reconnaître, de dire merci, t'es super, tu fais un super travail, de reconnaître mes compétences et la valeur ajoutée que j'apportais surtout à l'entreprise, à mon ami. Par contre, là où ça a commencé à prendre du sens, c'est quand, au bout de plusieurs mois d'accompagnement pour elle dans sa société, avec un quotidien, je me suis rendu compte que c'était tout à fait possible. D'une part, ça me libérait en termes de temps, ça me libérait un temps incroyable. Je pouvais m'organiser comme j'entendais. On était plus à un niveau égal et non à un niveau de subordination où on m'impose des heures, on m'impose quelque chose. Je me suis découverte entrepreneur, capable de pouvoir gérer une nouvelle organisation quotidienne, personnelle, et de proposer une vraie solution professionnelle. Et effectivement, on a commencé à en parler avec ma meilleure amie, et c'est là qu'elle m'a dit, mais moi je t'accompagne. Je développe, c'est mon expertise, je développe des marques au quotidien. Laisse-moi te créer ta marque, ta société, enfin ta vision, et vas-y. Et quand mon arrêt de travail s'est terminé et que j'ai repris mon poste, j'ai été très transparente, comme tous ceux qui me connaissent, avec mon manager, et je lui ai tout simplement dit que j'avais besoin de me désengager professionnellement. Pas que je reprochais quoi que ce soit le concernant ou concernant l'entreprise, que j'avais juste besoin de me désengager. D'une part pour guérir, parce que je traversais vraiment une maladie terrible et c'était dur et j'avais besoin de temps pour pouvoir guérir aussi bien mentalement que physiquement. Et d'autre part, pour pouvoir penser et lancer ce nouveau projet et voir si c'était viable. Et il m'a fallu plus ou moins 12-18 mois pour mettre en place My French PA, donc qui veut dire mon assistante personnelle française. Pourquoi en anglais? Parce que ma niche clientèle est purement et simplement anglophone. Je ne travaille qu'avec des anglophones, professionnels ou individuels, sur Paris. Soit ils vivent sur Paris, soit ils vivent à l'étranger. Mais le point commun, c'est Paris. Ils ont des activités personnelles, professionnelles. Ils n'ont pas de relais sur Paris. Ils ont besoin d'une assistante pour pouvoir construire un un pont culturel et leur expliquer ce que c'est que la culture française, ou leur expliquer ce qu'est aussi la culture professionnelle française et les assister dans leur quotidien ici.
D'accord. Donc si on faisait un petit peu l'esprit d'un vie ma vie, qu'est-ce que c'est ton quotidien, combien de clients tu traites, comment t'organises ta journée, j'ai pu comprendre que t'es une experte du temps, donc comment tu gères ton temps au quotidien?
Alors, en effet, on dit souvent que les cordonniers sont mal chaussés. Je suis très bonne pour mes clientes, très mauvaise pour moi. Non, mais quand je dis très mauvaise pour moi, c'est là que je veux toujours trop en faire. Donc, on va faire un vie ma vie. Top. C'est parti. Je me lève tous les matins entre 6h et 6h et quart parce que j'aime toujours avoir 45 minutes, une heure pour moi, soit pour méditer, pour écrire dans mon journal intime, pour prier et pour me préparer. C'est un temps pour moi qui est essentiel parce que je suis maman, ma fille a 8 ans aujourd'hui, My French PA, je l'ai créé en septembre 2017, donc on est à 2 ans après la création de My French PA. Et donc tous les jours, j'ai besoin de ce temps-là pour moi afin de pouvoir préparer ma journée dans les meilleures conditions. Et je suis quelqu'un de très coquette, donc j'aime me préparer, j'aime être prête, j'aime être maquillée. Voilà, c'est comme ça.
C'est pas parce que tu travailles à la maison que tu vas pas te faire belle, quoi.
Regarde, je me suis appelée. Enfin, oui, on peut dire que je me suis un peu préparée pour toi aujourd'hui, mais j'ai déjà eu des rendez-vous et des réunions vidéo-call avant toi. Et puis c'est pour moi, c'est surtout pour moi. Et puis là, on est en automne, donc on a encore plus envie de se coucouner, de se chuchoter. À 7h, ma fille se lève, on prend le petit déjeuner pendant 45 minutes ensemble, parce que c'est un temps très important où on discute ensemble de notre journée, de ce qu'on va faire. Elle me questionne tout autant que je la questionne. On est très fusionnels, vu qu'elle est fille unique et qu'on est quasiment en face-to-face au quotidien, toutes les deux. Mais ça, c'est un temps aussi très important pour moi. Ensuite, je la dépose à l'école. Soit je reviens à la maison travailler, et ça c'est merveilleux, j'ai pas de transport, pas de périph. Soit je vais sur site avec mon client à son bureau pour l'accompagner. Donc aujourd'hui, j'ai 7 clients réguliers et j'ai des clients ponctuels sur des événements bien précis à venir. Le plus gros de mes contrats, c'est un homme d'affaires danois qui a été missionné pour travailler sur un projet automobile pour le lancement d'un logiciel au niveau global sur tous les sites de cette marque automobile. Et je l'accompagne parce que il est le directeur programme de ce projet-là. Il gère 80 consultants, donc je suis son assistante personnelle, mais je suis aussi la programme admin de tous ces consultants et de tout ce projet. Et c'est vraiment une belle aventure avec lui. Et mes autres clients, j'ai une cliente d'Afrique du Sud, j'ai un client français qui travaille à l'international, j'ai un client suisse, j'ai une cliente allemande basée en Allemagne et j'ai une cliente basée à Amsterdam. Et puis ensuite, j'ai d'autres clients, c'est des individuels anglophones, expats ou alors mariés à des Français ou qui vont se marier à des Français bientôt. Et je m'occupe de leur vie personnelle. Donc toute la partie bureaucratie française, administrative, organisation qui pour eux... c'est hyper compliqué, ils sont ravis de m'avoir.
D'accord, donc c'est un volet assistante personnelle et assistante de direction, gestion de projet, événementiel, enfin...
Je ne fais pas la différence entre l'assistante de direction et l'assistante personnelle. Ça, c'est très franco-français de penser comme ça. Pour moi, quand on assiste une personne, je ne vois pas comment on peut apporter une vraie expertise administrative, notamment en termes de gestion du temps, si on n'inclut pas la vie personnelle dedans. C'est pour ça aussi que je vous ai parlé de façon très détaillée de comment mon matin s'organise, parce que c'est ce qui me permet pour le reste de la journée d'être à mon max, de pouvoir délivrer, c'est très anglophone de dire délivrer, mais de pouvoir donner, rendre et donner surtout un résultat optimum de ce qu'on attend de moi. Donc généralement, de 8h30 à midi, je suis en clientèle, en rendez-vous. Je travaille, mes plages horaires sont très bien définies. C'est souvent des plages horaires de 90 minutes maximum pour mes clients. Ensuite, je déjeune de midi à 13h. De 13h à 17h, 17h30, je travaille aussi. J'ai des rendez-vous qui peuvent aller jusqu'à 19h. J'ai la chance d'avoir une nounou qui m'accompagne au quotidien avec ma fille en fin de journée. C'est important pour elle parce qu'elle a beaucoup d'activités en sortie d'école et on peut pas être au four et au moulin en même temps. Et puis de 19h30 à 20h30, 21h, je suis avec ma fille, quoi qu'il se passe, tous les soirs, sauf si j'ai des événements professionnels et là effectivement il y a une organisation qui se fait à la maison, et généralement je me couche entre 22 et 23h.
Parle-nous un petit peu de ce qui te plaît le plus dans ta fonction.
Plus dans ma fonction, c'est de pouvoir accompagner des personnes passionnées par leur métier, quel que soit leur métier. Je ne choisis pas les gens en fonction de l'industrie dans laquelle ils travaillent ou de leur métier ou de leur service ou de leurs produits qu'ils proposent. Je choisis mes clients en fonction de ce que je vais pouvoir leur apporter. Donc, il y a toujours un rendez-vous où on parle à cœur ouvert, où on partage à cœur ouvert les visions de mon client ou de ma cliente. Quelles sont ses attentes, quels sont ses objectifs, où veut-il aller? Et comme je suis quelqu'un qui est passionné par les histoires, et notamment donc les gens, parce que s'il y a une histoire, il y a forcément une personne derrière. C'est dans la narration de la vision et du projet que je vais sentir si je peux accrocher, si je peux matcher, comme on dit, hein, si je peux apporter quelque chose. Et c'est comme dans les films, hein, dans mon esprit, j'ai un espèce d'ordinateur dans mon cerveau qui va prendre toutes les données verbales, visuelles, documentation, et de là, je vois très rapidement si je peux vraiment apporter quelque chose, si je suis la bonne personne, ou si je peux diriger vers quelqu'un d'autre. Parce que nous avons, il y a d'autres assistantes indépendantes. Ce métier commence à s'installer en France. Il est mal connu, mais tout comme le métier d'assistante, hein, même en poste. Et ce qui me motive au quotidien, c'est de me dire que chaque jour, je peux organiser au mieux le temps de mes clients afin qu'ils puissent se concentrer sur leur compétences, sur leur métier de cœur, sur ce vraiment enlever tous les parasites, toutes les choses qui peuvent parasiter leur quotidien afin qu'ils puissent se concentrer sur leurs objectifs et ce qu'ils aiment vraiment faire.
Au-delà de ton bébé, en fait, My French PA, je sais que tu es engagée aussi auprès de la communauté des assistantes. Tu fais partie de réseaux. D'ailleurs, la prise de contact a été que j'ai vu que tu étais, tu créais un webinaire. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton engagement, justement ?
Alors, c'est vrai qu'on me le dit souvent. On me dit que je suis influenceuse, que je suis engagée, que je suis ambassadrice. Après le titre, ça c'est toujours quelque chose de très subjectif, c'est personnel, c'est toujours une histoire de prisme, de perception. C'est comment tu reçois l'information et comment tu perçois l'autre personne. Je suis passionnée par ce que je fais. Je suis passionnée par mon métier. Je suis très triste en fait de voir en France et dans les pays où le français est la langue du business, combien mes consoeurs et mes confrères sont malheureux, combien ce métier n'est pas représenté, n'est pas reconnu, on est mal aimé, hein, pour reprendre le titre de la chanson de Claude François. On est vraiment, c'est un métier qui est mal aimé, c'est un métier qui n'est pas défini, qui n'a pas de place. Il n'y a pas de formation académique connue à part un BTS SAM, support à l'action managériale aujourd'hui. Il n'y a pas de formation professionnelle proposée à part du Microsoft, de la suite
Office, la bureautique
ou ce genre de choses.
C'est très rare quand même d'avoir des assistantes qui vont monter en compétences, on va pouvoir avoir une fonction. Enfin, moi, j'ai pu suivre une formation de gestion de projet, mais il y a peu d'assistantes qui osent demander ce type de formation. Or, ça fait du sens. En tant qu'assistante, on organise régulièrement des événements. Et un événement, c'est de la gestion de projet.
Oui, tout à fait. Mais généralement, ces formations se font lorsque l'assistante est proactive et force de proposition. C'est-à-dire qu'elle a un plan, elle sait où elle va, elle demande, et si elle a une très bonne relation avec sa direction, ça passe. J'ai rarement vu des assistantes qui ont refusé des formations, sauf dans les très très grosses structures où là, il faut passer par tout un système interne de process, de validation, de budget. Et effectivement, pour cette partie-là d'assistana, c'est très compliqué. Mais la responsabilité est partagée. La responsabilité est partagée. On est très mal représenté, on est mal aimé, mais on n'y va pas non plus de notre côté. On n'y va pas parce que je pense qu'on a toutes et tous subi ce syndrome de l'esclavage. C'est un terme que j'utilise souvent parce que on est battu au quotidien mentalement. On nous donne ce qu'il faut en termes de salaire pour nous garder assez longtemps. Et on nous remercie par des chocolats et puis des fois par des invitations. Mais on est battu quotidiennement, psychologiquement et mentalement. Et ça, je le vois vraiment dans beaucoup d'entreprises. Il y a quand même de belles choses qui se font. Il y a beaucoup de réseaux d'assistantes qui se montent dans de très, très grosses entreprises. Ça commence à bouger. Je pense à Microsoft, je pense à Yves Rocher, je pense à plein d'autres sociétés. On a une fédération en France qui fait énormément de choses pour le métier. On a des associations. Je suis membre d'International Management Assistant, qui est une association pour les assistantes anglophones qui travaillent en anglais. Où là, effectivement, j'ai fait mon premier webinar qui était live hier sur le sujet du time management et comment protéger son temps en tant qu'assistante au quotidien dans un environnement professionnel. Donc oui, en effet, je parle beaucoup de ce métier parce que je m'éclate au pays. Je n'ai jamais voulu travailler avec des patrons francophones parce que justement, pour me fuir ce syndrome de l'esclavage, où on a besoin de l'assistante, c'est un poste clé, mais on la bat pour pas qu'elle prenne trop la confiance, comme on pourrait dire de façon assez familière, et qu'elle commence pas à vouloir imaginer des plans d'évolution de carrière ou de changement de poste. Les assistantes, on en veut, on en a besoin, on les garde, on leur fait croire qu'elles ne servent à rien, on leur fait croire que leur métier va disparaître, on leur fait croire que l'intelligence artificielle va prendre le pas dessus ce poste, on leur fait croire que l'évolution numérique va les faire disparaître. Enfin, c'est des gros mensonges, c'est faux, faux et faux. Je pense que ce métier est plus que jamais dans une évolution, une croissance en flèche, qu'on va de plus en plus avoir besoin de nous. Chez les anglophones, l'industrie est puissante, et que quand je parle d'industrie, je parle de l'industrie de l'assistanat, parce que nous sommes une industrie, sauf qu'on veut nous taire, est très puissante. Il y a énormément de choses qui se fait. L'année dernière, au mois d'août, a été signée une charte à Wellington, en Nouvelle-Zélande, pour réunir tous les pays où l'anglais est le business, afin de représenter ce métier et réduire 162 titres d'assistante à 6 titres. Avec grille salariale, formation académique, formation professionnelle, tout est bien. Ils essayent au maximum de pouvoir cadrer la chose afin de pouvoir aller voir les gouvernements, aller voir les ministères, aller voir les différentes institutions et dire ben, nous existons, nous sommes là, voilà ce qu'on réclame.
Après ça, je sais qu'en France, il y a effectivement la fédération, la FFMAS, qui s'est emparée du même combat pour faire reconnaître le métier d'assistante et essayer de, dans la même démarche que tu as expliqué, il y a beaucoup trop de titres d'assistante en France et encore de secrétaire, on nous appelle encore secrétaire. Donc c'est une démarche intéressante. Si on pouvait revenir un petit peu, quel est ton plus gros coup de cœur professionnel, ta plus belle aventure, ta pépite, vraiment ta sorte de kryptonique, quand t'as un coup de blues, quel est ton souvenir coup de cœur qui revient?
J'ai plein de souvenirs coup de cœur, c'est des histoires humaines. C'est des histoires humaines, c'est des rencontres, c'est des moments suspendus dans le temps où là, en une fraction de seconde, ton expertise, ton professionnalisme se met en marche, c'est automatique et tu te retrouves à faire des choses incroyables. Je me souviendrai toute ma vie et c'est vrai que j'y pense souvent à ce moment-là, quand à 23h45 à Cannes, au Energy Music Award, au dîner d'honneur pour Monsieur Charles Aznavour, où on lui a remis un trophée d'honneur pour toute sa carrière, à 23h45, la présidente, donc ma boss, me demande d'organiser un cocktail dans sa suite pour minuit 15, pour féliciter Monsieur Aznavour de ce trophée d'honneur. Je sais pas pourquoi, d'un coup, à 23h45, elle s'est dit, au lieu d'aller boire un verre, on va faire un cocktail privé dans sa suite. Donc il fallait que j'invite tous les artistes, que je prévienne tout le monde, et que surtout, tout soit mis en place et installé. J'avais une demi-heure. Mm-hmm. J'étais au Palais des Festivals de Cannes. Sa suite était au Carlton. J'avais la chance cette année-là que la ville de Cannes m'avait prêté une smart décapotable pour pouvoir faire les allers-retours entre le Palais des Festivals et l'hôtel. Mais clairement, là, j'étais vraiment dans une demande professionnelle claire, politique, d'image où on me demandait moi en tant qu'assistante de pouvoir mettre en œuvre, d'organiser un événement et de pouvoir faire ressortir toutes mes plus grosses compétences. Ça a été comme une analyse informatique de données dans mon cerveau. J'ai pris tout ce qu'elle m'a demandé, j'ai intégré et j'ai ressorti ça en liste de tâches. Ce processus s'est fait pendant mon chemin entre le Palais des Festivals et l'hôtel. Arrivée à l'hôtel, j'ai demandé tout de suite à voir le concierge. J'ai demandé à ce qu'il réunisse toute son équipe. Et effectivement, une demi-heure, tout a pu être fait. Pendant ce temps-là, moi, je prévenais tous les gens, tous les artistes qu'on invitait effectivement à cet événement, parce que c'est un événement privé de 40 personnes, mais 40 personnes quand même. Et à minuit 15, l'ascenseur privé qui menait à la suite, les portes se sont ouvertes et tout le monde était, et tout était installé, tout était prêt. Et ça a été un moment d'adrénaline terrible. Je me souviendrai toujours quand à minuit 15, Nathalie, donc ma boss, me dit « Parfait, c'est magnifique. De toute façon, je savais que tu ferais quelque chose de merveilleux. Prends une coupe de champagne. » À ce moment-là, j'avais qu'une envie, c'était de m'effondrer par terre et de souffler. Et surtout pas de boire une coupe de champagne. Mais comme Monsieur Aznavour est arrivé et m'a invité tout de suite à trinquer avec lui et à m'en remercier chaudement devant tous les invités d'avoir pu organiser ça, je l'ai quand même bu cette coupe de champagne.
Ah bah c'était un moment de reconnaissance vraiment intense, quoi.
Total. Et surtout, tu te retrouves entouré de noms extrêmement connus, renommés, où tu es dans un environnement de travail, c'est du travail, mais tu as Monsieur Aznavour en face de toi, donc c'est beau. C'est un beau moment. Je m'en souviendrai toute ma vie.
Alors, il va être temps de conclure. Quel serait ton dernier mot pour la fin? Donc là, c'est vraiment, tu as la liberté totale.
Alors, pour le mot de la fin, il va se diriger auprès de toute la profession des assistantes. Nous ne sommes pas que des assistants et des assistantes, nous sommes des experts. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qui manque cruellement à cette profession, c'est la définition de l'expertise. C'est très rare aujourd'hui de tomber sur une assistante et de pouvoir échanger son expertise, car elle-même ou lui-même n'est pas capable de nommer son expertise. Et tant que cette prise de conscience-là ne sera pas faite dans cette profession, eh ben la profession n'existe pas. Donc si la profession n'existe pas, l'industrie n'existe pas. Et c'est en nous réunissant, c'est dans la réunion, dans le partage et dans l'échange et dans la définition de cette expertise pour chacun et chacune, qu'on va pouvoir commencer d'une à parler d'une même voix et à faire bouger les choses et à évoluer. Et puis aujourd'hui on a les réseaux sociaux qui sont un vrai pouvoir. Contrairement à ce qu'on peut croire, un vrai pouvoir de communication et de connexion. Et je suis plus que persuadée que nous n'allons pas du tout disparaître. Au contraire, l'intelligence artificielle va nous accompagner dans le quotidien, va nous faciliter notre quotidien, va nous enlever toutes ces tâches répétitives administratives qui sont gonflantes, qui sont souvent liées au terme de secrétaire. Alors que je trouve que le mot secrétaire est un mot magnifique dans la langue française. Il y a le mot secret, il y a le mot confidentialité derrière. Et c'est ce que nous sommes au quotidien. Nous sommes les liens, nous sommes la culture d'une entreprise, nous sommes le liant des équipes et des directions. Donc, au contraire, je pense que notre avenir va être surprenant, beau et magnifique.
Merci pour ce très beau mot de la fin et merci encore de m'avoir accueilli dans ton bureau. Et j'espère que ce podcast vous a plu et suivez les actualités donc sur le blog The Office Unicorn et n'hésitez pas à consulter également l'Instagram et le site de My French PA.
Merci, au revoir.